Vous écoutez, on lit pour vous.
Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand. Extrait. Extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans la presse. Jeannette Bertrand a eu 100 ans le 25 mars. Toujours en avance sur son temps, la communicatrice a su brasser la cage, faire tomber des tabous, éveiller bien des consciences et accomplir tout cela à sa manière à elle. La presse a sondé des personnalités de différents milieux ainsi que des lecteurs pour faire le bilan de sa contribution à la société québécoise. « Ma mère, c'est Jeannette », texte de Mario Girard. Quand ta mère est Jeannette Bertrand, tu ne poses pas le même regard sur celle qui a milité pour les droits des femmes et brisé tellement de tabous. Dans cette rare entrevue, les trois enfants de la célèbre centenaire, Dominique, Isabelle et Martin, brossent un portrait drôle et touchant de celle qu'ils ont dû partager avec tout le Québec. À partir de quand avez-vous pris conscience que votre mère n'était pas une femme comme les autres? Isabelle. Dans mon cas, c'est vers l'âge de 16 ans. Ma mère faisait l'émission « Comment, pourquoi » sur la réalité des adolescents. Elle me laissait rentrer tard et porter des mini-jupes. Mes amis me jalousaient. Ma mère ne nous disait pas « Ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Tout était basé sur la discussion. Martin. Petit, je voyais mes amis se faire chicaner. Moi, j'étais habitué à ce que ma mère me demande. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Les parents de mes amis me demandaient si ma mère était Jeannette Bertrand. Les mères étaient contentes, mais les pères me disaient « Sais-tu que ta mère fait de la misère aux hommes ?» Donc, beaucoup de dialogues, même quand vous étiez jeune, de la négociation aussi, j'imagine. Martin, oui, mais ce qui nous choquait, c'est qu'elle avait raison la plupart du temps. Dominique, elle nous disait « « Arrange-toi pour ne pas te mettre les pieds dans les plats. » Isabelle. L'une de ses grandes phrases était « Je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. » On savait que si on brisait sa confiance, c'était foutu. Martin, j'ai déjà dit ça à mes enfants. Dominique, moi aussi. Martin. Elle nous a fait confiance et nous fait encore confiance. Dans l'éducation de nos enfants, elle ne nous a jamais dit quoi faire. Avez-vous toujours su que vos parents ne pratiquaient pas des métiers conventionnels? Dominique, je les accompagnais à Radio-Canada sur Dorchester quand j'avais 9 ans. Ils étaient assaillis par des admirateurs. Je voyais bien qu'ils étaient différents. Maman écrivait et papa, Jean la jeunesse, jouait au théâtre le soir. Isabelle, nos voisins nous demandaient pourquoi notre père était en pyjama le jour. Quand on est une femme jeune, est-ce une pression d'avoir comme mère la super Jeannette? Isabelle, on a toujours de la pression quand on est la fille d'une personnalité. J'ai souffert de ça longtemps, mais à un moment donné, je me suis débarrassée de ça. Dominique, il y a une pression dans le regard de certaines personnes, mais il y a aussi ceux qui n'aiment pas maman. Ils te le disent. Moi, je savais que ma mère n'était pas méchante. C'est une briseuse de glace, c'est tout. C'est fou comme je sens des liens très forts entre vous. Il y a une grande complicité. Elle aurait pu avoir un enfant très différent des autres qui aurait refusé cette dynamique familiale. Finalement, votre mère a été chanceuse. Martin, certain qu'elle a été très chanceuse de nous avoir. Isabelle, on aime se voir et on aime maman. Dominique, il y a toujours eu beaucoup d'amour dans la famille. J'allais chez mes amis et je trouvais ça plate. Chez nous, tout était exagéré. Il y avait de l'action. Martin, t'as beau dire, on a été élevés par des artistes. Ma mère a beaucoup d'idées. On ne s'ennuie pas une seconde avec elle. Dominique. Quand j'avais 18 ans, elle a voulu vendre des crêpes à Expo 67. Elle voulait que je travaille dans son kiosque. Elle a aussi voulu vendre du poulet à Paris et ouvrir une manufacture de couvre-chaussures. Ben voyons, elle est vraiment sérieuse quand elle lance ses idées. Dominique, mais totalement. Martin, notre mère traîne un calepin quand elle va au restaurant. S'il y a une recette qu'elle aime, elle va voir le chef dans la cuisine et note les ingrédients. S'il y a une nouvelle machine qui arrive sur le marché, elle l'achète. On a vécu toutes sortes de phases. La machine à eau, la machine à pain, la machine à crème glacée, elle les a toutes achetées. Ça fait son temps. La cocotte Romertopf a quand même duré un bout. C'est une essayeuse. Isabelle. On a suivi des cours de yoga, d'espagnol, de ballet jazz, de pilates. Elle est présentement en Martinique et elle se baigne deux fois par jour dans la mer. Elle est très curieuse. Et quand t'es curieux, t'es heureux. Le public a une certaine relation avec Jeannette Bertrand. La vôtre est évidemment complètement différente. Elle ressemble à quoi? Isabelle. Comme j'ai beaucoup travaillé avec elle, j'ai appris à voir ma mère aussi comme une amie. Martin, pas moi. Ça demeure ma mère. J'ai eu la chance récemment de faire quelques conférences avec elle. C'était incroyable. Elle a un cerveau vif et un sens du show. J'ai tellement aimé ça. J'en parle et j'en pleure. Mais au-delà de ça, elle reste ma mère. Dominique, j'ai toujours vu ma mère écrire. C'est ça l'image que j'ai d'elle. Je retiens de ça sa régularité. Disons qu'elle ne fait pas le ménage comme elle l'écrit. Martin, elle se demande tout le temps à quoi ça sert de faire le ménage. Le clan familial comprend aussi 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. On sent que les moments en famille, c'est quelque chose de précieux pour elle. Martin. À moins d'avoir un meeting très important, maman ne dit jamais non à un téléphone d'un de nos enfants qui souhaite aller au chalet. Sa porte est toujours ouverte. Il arrive que nos enfants se confient à notre mère avant de nous parler. Quand ils ont une peine, souvent, ils vont vers elle. Dominique, j'ai un fils qui a été un peu fantasque. C'est le premier de la famille qui ne marchait pas dans les règles. Maman ne savait pas quoi faire avec ça, mais au bout du compte, elle a trouvé. À force de parler, elle a compris certaines choses. Isabelle, elle va avoir 100 ans. On est chanceux de profiter de cette sagesse. Dominique, oui, parce qu'à 35 ans, elle était moins sage. On a l'impression que Jeannette appartient à tout le Québec. Est-ce que ça a été difficile de la partager? Dominique, non, parce qu'on l'avait juste pour nous dans la vie privée. Martin, nos parents disaient que ce n'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité. On voudrait que Jeannette soit éternelle, mais un jour, elle nous quittera. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'elle vous a appris de plus beau, de plus fort? Dominique, elle m'a posé la question l'été dernier. Je lui ai parlé de sa rigueur et elle était surprise. J'admire sa ténacité. Elle ne lâche jamais le morceau. Elle va se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Martin, moi je retiens d'elle cette idée que dans la vie, rien n'est jamais totalement noir ou blanc. Il y a une histoire derrière les gens et les choses. Il faut la découvrir. Isabelle, de mon côté, c'est la confiance. Elle m'a toujours répété que j'étais capable de réussir. Dominique, notre mère nous a donné une solidité qui nous a permis d'avancer dans la vie comme on a voulu, car au fond, elle a fait la sienne comme elle a voulu. Martin, Dominique a raison. On a reçu une force. Tu sais, quand tu es aimé, ça aide. Elle nous a armés. Au fond, vous avez reçu un concentré de ce que chaque Québécois a puisé en elle. Isabelle, oui, tout à fait. Comment accueille-t-elle la pluie d'hommages qui survient en ce moment? Dominique, Elle ne le croit pas. Elle nous dit que c'est trop, mais elle a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Isabelle, elle est persuadée que c'est juste parce qu'elle est vieille. Martin, elle est heureuse. Car tout cela lui procure plein de projets. Mais c'est Donald, Janson, son amoureux, qui doit pédaler en arrière. Une chance qu'il est là, lui. Vous écoutez « Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand », extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans la presse. Un modèle révolutionnaire pour les femmes et les hommes. Texte de Sylvia Galipo. Avec ses émissions, ses tables rondes, mais aussi ses livres, Jeannette Bertrand a ouvert bien des esprits, déstigmatisé quantité de réalités, carrément changé des vies. À sa douce manière, elle a éveillé bien des femmes et assurément fait évoluer beaucoup d'hommes. Son apport à la société en 5 temps. Un modèle de femme libre. Début des années 1950. Jeannette Bertrand a à peine 25 ans, déjà 2 enfants, bientôt 3, et elle anime une émission de radio avec son mari, Jean Lajeunesse, à une époque où les femmes sont pour la plupart cantonnées dans leur foyer. Très tôt, elle se met à écrire dans un journal, puis pour la télévision. Elle était libre, signale Léa Clermont-Dion, autrice et réalisatrice à qui l'on doit le documentaire « Jeannette et ses filles » 2022, ainsi que « Le siècle de Jeannette », une installation vidéo présentée dès le 26 mars à la Place des Arts, dans le cadre des festivités entourant son 100e anniversaire. Jeannette Bertrand était en outre visible sur plusieurs tribunes et elle prenait la parole. Ça, c'est un legs important. L'espace qu'elle occupait sur la place publique était révolutionnaire. C'est un modèle rare et c'est important de le souligner. Éducation sexuelle des femmes. Jeannette Bertrand a tenu un courrier du cœur pendant 17 ans, et ce, dès le début des années 1950, dans le Petit Journal. L'apport de cette correspondance n'est pas à sous-estimer. Les lecteurs, et surtout les lectrices, lui envoient des lettres par centaines dans lesquelles ils se confient sur les menus détails de leur vie, leur intimité, leurs désirs, mais aussi leurs insatisfactions, notamment sexuelles. En matière de sexualité, Jeannette Bertrand conseille aux femmes de s'éduquer. Une proposition qui peut sembler inoffensive aujourd'hui, mais qui, à l'époque, a quelque chose de quasi subversif. Elle libérait la parole des femmes qui voulaient libérer leur sexualité, poursuit Léa Clermont-Dion. Ça prenait du courage pour le faire. Elle a été mise à l'index par le clergé. Les maris la craignaient. Joanne Sénéchal a consacré son mémoire de maîtrise à ce courrier particulier de 1958 à 1968 spécifiquement, pour un total de 271 lettres analysées. À titre d'exemple, à une femme mariée dans la vingtaine, Jeannette recommande de lire des livres sur la sexualité, cite-t-elle. Oui. Dans le mariage, elle encourageait les femmes à avoir une vie sexuelle satisfaisante. On sent qu'elle utilise son gros bon sens avant d'obéir à la religion ou à ce que disaient les prêtres. C'est son gros bon sens qui parle, et c'est ce qui fait que les gens l'écoutaient. Exit les sujets tabous. Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à notre appel à tous sur l'impact qu'a eu Jeannette sur vos vies. On ne compte plus les mentions de l'ouverture d'esprit qu'a amenée la grande dame. « Elle m'a aidé à mener la vie que je voulais vivre », dit Joanne Duchesneau, qui, dans les années 1960, a compris, grâce à une émission de Jeannette, qu'il n'y avait rien de mal pour une adolescente à aimer jouer au football et au hockey avec les garçons. Elle nous a appris à comprendre toutes les différences humaines. Elle nous a appris à les apprécier, nous a écrit Diane Lapalme. Ses émissions de télévision, Quelle famille avec un grand A, mais aussi ses écrits, dont le livre « Maman, dis-moi tout sur les menstruations, dont vous êtes nombreuses à vous souvenir », aborde toutes sortes de sujets féminins et masculins que personne n'abordait à l'époque. Les filles mères, l'avortement, le désir des femmes, l'adultère, la grossophobie, les lesbiennes. C'est dans ses œuvres et surtout par la prise de parole qu'elle a permis de faire avancer des causes, poursuit Léa Clermont-Dion. Précurseur du mouvement #MeToo. Jeannette Bertrand attaque de front la violence conjugale, sujet tabou de l'époque s'il en est, dans un épisode d'Avec un grand A, L'amour qui tue, 1991, qui a marqué les esprits. Elle revient sur le sujet en table ronde à son émission Parler pour parler. En matière de conditions féminines, je dirais que c'est son plus grand legs, dit Léa Clermont-Dion, qui voit là une forme de démocratisation d'un sujet fort par la fiction. Elle est un peu précurseur du mouvement #MeToo, avance-t-elle, parce qu'elle a libéré une parole en parlant de violence conjugale en prime time. Elle a invité des victimes, et cela a fait en sorte qu'on sensibilise les gens dans l'espace public sur cet enjeu tabou. Et elle a touché le cœur des gens. Des modèles positifs pour les hommes. Et les hommes dans tout cela. Elle les a aussi aidés à changer parce que, qu'est-ce que vous voulez, on vit ensemble. C'est ainsi que Michel Doré, sociologue, auteur et proche collaborateur de Jeannette Bertrand, résume son legs en matière de conditions masculines. Comment? En présentant des modèles différents, gays, trans, jeunes, vieux, mais aussi tout simplement bienveillants, capables de résoudre des conflits dans ses émissions, Le père et le fils dans Avec un grand A, comme dans ses romans, Un homme tout simplement. En les conscientisant, en leur disant « On a besoin que vous changiez. C'est à votre avantage. Les relations égalitaires, c'est toujours plus le fun. » Invitée à répétition à l'émission Parler pour parler, aux côtés de Guy Corneau et de Régent Thomas, Michel Doré souligne l'immense talent de Jeannette Bertrand, une intervenante sociale née, qui savait réunir autour d'une table monsieur et madame tout le monde, laisser parler leurs émotions et, ce faisant, toucher les spectateurs droit au cœur. Elle a fait comprendre aux gars que le changement n'est pas dangereux, poursuit celui qui ne compte plus les témoignages entendus en ce sens dans divers salons du livre. Elle est très féministe, mais très rassurante. La révolution dont elle parle, ce sont des petites choses dans le quotidien. Même si le discours peut paraître radical, sa forme, elle, est d'une extrême douceur. Écoutez, je ne l'ai jamais vu fâcher. Vous écoutez Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand, extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans la presse. Parler pour parler du Québec à travers Jeannette. Texte de Louise Leduc. Trois femmes de trois générations. Trois agendas hyper serrés. Le temps d'un parler pour parler maison, la presse a réuni les ex-ministres Véronique Yvon et Lisa Froula et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, pour discuter du legs de Jeannette Bertrand. À travers les réalisations de l'animatrice et écrivaine centenaire, elle témoigne du chemin parcouru par les femmes dans la sphère publique. Les progrès réalisés. La presse. Revenir sur l'histoire de Jeannette Bertrand, c'est revenir en même temps sur 100 ans d'histoire des femmes et du Québec. Lisa Froula. On connaît la Jeannette d'aujourd'hui, la battante, mais dans les premières archives, elle était, comme toutes les femmes de son époque, une femme infantilisée, une femme soumise, qui mettait son mari sur un piédestal et qui a même dû se battre pour avoir le droit de mettre son nom au générique de quelle famille. Jeannette confiera des années plus tard qu'elle écrivait seule ce téléroman, diffusé de 1969 à 1974 à Radio-Canada. Catherine Fournier. Ma grand-mère paternelle racontait qu'elle ne pouvait même pas obtenir de soins à l'hôpital pour son fils sans la signature de son mari. Mais mon grand-père, il avait pris le bord. Ma grand-mère a dû travailler 60 heures par semaine pour élever ses 3 enfants. Elle avait plein d'aspirations. Elle était profondément engagée, très altruiste. Mais jamais une vie politique comme la mienne n'aurait pu être accessible à une femme de son époque et de son milieu. La presse. Il a fallu attendre 1964 pour que les femmes soient même juridiquement égales à leur mari et qu'elles puissent ouvrir un compte en banque. Lisa Froula. Ça a été majeur. Mais un jour, j'ai demandé à Jeannette Bertrand ce qui avait le plus révolutionné la vie des femmes, et elle a répondu sans hésiter « La pilule ». La presse. C'est dire à quel point d'immenses changements sociaux sont survenus en quelques petites années. Des changements que Jeannette Bertrand, par ses émissions, a accompagnés, sinon précédés. Véronique Yvon, c'était une faucheuse de tabous. Lisa Froula, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne faisait pas qu'aborder de nouvelles réalités. Elle les vivait elle-même. Son divorce, par exemple. Je me souviens bien quand elle et son mari, Jean de la Jeunesse, se sont séparés en 1981. Au Québec, ça a été tout un choc. Ça nous a fait de la peine. Un peu comme quand un couple d'amis se sépare. Et quelques années plus tard, elle a retrouvé un amoureux de 20 ans plus jeune qu'elle. Véronique Yvon. Elle en a même fait 2 épisodes de l'amour avec un grand A. L'un portant sur une conjointe beaucoup plus jeune que son mari, l'autre sur la situation inverse. La presse. Les divorces étaient encore rares au début des années 1980, surtout après 34 ans d'union. Il était aussi très rare qu'une femme soit sur le marché du travail dans les années 1950 et 1960. Véronique Yvon. On parle peu du déchirement que vivaient les premières femmes qui ont commencé à travailler à l'extérieur. Très souvent, elles commençaient leur carrière, l'interrompaient le temps d'avoir leurs enfants et de rester au foyer, puis reprenaient, avec les conséquences qu'avaient ces trous sur leur avancement. Lisa Froula. Ce déchirement, je l'ai vécu. Dans le temps, un système de service de garde, il n'y en avait pas. C'est ma mère et mon père qui ont élevé mon fils. Véronique Yvon. Je suis devenue maire et députée au même moment en 2008. Lâcher prise, renoncer à être à la fois une épouse, une mère et une ministre parfaite, ça a été pour moi un combat. Lisa Froula. Ma génération de femmes, quand on est arrivé en politique, on défonçait les portes dans un monde fait pour les hommes, qui, eux, étaient très contents de siéger toute la nuit à l'Assemblée nationale, y compris avant Noël. Ils buvaient du cognac, jouaient aux cartes, pendant que nous, députés, angoissions en pensant aux cadeaux qui n'étaient pas achetés et aux réveillons qu'on devrait préparer en vitesse. Un jour, nous, les femmes, avec l'aide de Jean-Pierre Charbonneau, ex-député, on a dit « Siéger la nuit, ça suffit. » Ça a été ramené à minuit, puis à 22h. Catherine Fournier. J'ai été élue députée à 24 ans, puis mairesse d'une grande ville à 29 ans, et toute ma reconnaissance va aux femmes comme Jeannette Bertrand qui ont fait évoluer les mœurs. Au point où, sincèrement, je n'ai jamais senti que le fait d'être une femme a été un frein pour moi. Au contraire, ça a été positif. J'ai senti qu'on avait envie d'entendre la voix de la jeune politicienne que je suis, peut-être parce que ça demeure une voix qui est encore peu entendue. Véronique Yvon. Je dirais que je n'ai jamais été traitée différemment de la part des électeurs parce que j'étais une femme. Dans une visite d'usine ou ailleurs, je ne l'ai jamais vécu. Par contre, au sein des partis politiques, ça demeure compliqué de changer les codes, les comportements, les façons de faire qui demeurent dans la confrontation. beaucoup de femmes ont envie de remettre cela en question, surtout depuis qu'on est dans une zone paritaire à l'Assemblée nationale et qu'on n'est plus obligé de faire partie du Boys Club. D'avoir des femmes députées, ça permet aussi de mettre de l'avant des dossiers comme celui des violences sexuelles. La presse. Beaucoup reste à faire. L'équité salariale réelle, la parité. L'égalité est loin d'être acquise. Catherine Fournier. Bien sûr. Mais pour franchir ces dernières étapes, je trouve ça motivant de voir le chemin parcouru. Ça m'amène à croire qu'on va y arriver. Les tabous d'aujourd'hui. La presse. Jeannette Bertrand n'a jamais hésité à aborder des sujets considérés comme délicats à l'époque, comme l'homosexualité, l'inceste, les agressions sexuelles, l'alcoolisme, etc. Quels sont ceux dont on a du mal à parler encore aujourd'hui? Lisa Froulard, on est quand même assez ouvert. Équité et diversité sexuelle, tout est sur la table. Catherine Fournier, oui, mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, Lisa Froulard, exact. Tout est là, mais tout est fragilisé. La presse. Par la droite, mais pas uniquement. L'homme qui a tué sa femme et ses deux fils en 2022 et qui se déclare femme aujourd'hui simplement pour éviter la prison pour homme, ça ne fait pas sourciller que les conservateurs. Lisa Froulard, on a été à gauche. On a poussé la note et c'est bien qu'on l'ait fait. Mais pour certaines choses, y a-t-il lieu de réévaluer si on est allé trop loin dans l'acceptation de tout? Moi, je pense que oui. Catherine Fournier. Comme élue, ces questions sont délicates. On peut vite se faire accuser d'être transphobe. Le danger en tentant d'imposer une pensée unique, c'est de créer chez nous une dynamique de ressac, comme on le voit aux États-Unis. Et ça, ça me fait de la peine. Parce que ce sont les personnes trans qui risquent d'en être victimes. Chose certaine, pour ce criminel, la prison pour femmes, ça m'apparaît inacceptable. Véronique Yvon. Moi, je ne pense pas qu'on soit allé trop loin dans la reconnaissance des personnes trans. En commission parlementaire, j'ai notamment entendu des jeunes qui rappelaient la complexité de leur existence et l'inquiétante prévalence des idées suicidaires qui pouvaient les habiter. Je trouve ça très bien que notre société ait reconnu leur réalité. La presse. Dans un autre ordre d'idées, de quel œil percevez-vous le discours des masculinistes dont on ignore à quel point il séduit de jeunes adultes? Catherine Fournier. Quand je pense aux masculinistes, Julien Bournival-Vaugeois, à qui tout le monde en parle à donner une grosse tribune, je me demande si Jeannette Bertrand, elle, aurait fait de même. Vive le dialogue, oui, mais quand ça ne fait que virer à la confrontation, je ne suis pas certaine que ce soit si utile et ça donne beaucoup de gaz à ce discours. Lisa Froulard. La semaine qui a suivi, on a su que ce masculiniste qui faisait l'apologie de l'homme pourvoyeur et de la femme à la maison était au bord de la faillite. On parle beaucoup des femmes qui ont beaucoup changé, mais je pense que les hommes ont eux aussi énormément changé pour la majorité d'entre eux. Combien de gars ai-je entendu dire que ce n'était que sur le lit de mort de leur père qu'ils l'ont entendu ouvrir son cœur? La presse. Jeannette Bertrand, la centenaire, est célébrée partout, mais pendant des années, elle a été très amère d'être invisibilisée. Comme si être centenaire, c'est une curiosité, mais à 60, 70 ou 80 ans, il faut prendre son trou. Lisa Froulard. Toute la société est conçue comme si à 70 ans, tout s'arrêtait et on n'attendait plus que de mourir. La presse. Vous n'aspirez aucunement à vous retirer dans vos terres et à regarder pousser les fleurs. Les affoula jamais. Une fin de semaine, ça suffit pour se reposer. Véronique Yvon, ce qui m'anime, c'est le sentiment d'utilité. Et depuis mon départ de la politique, je suis en train de me réinventer, d'essayer plein de choses et pas trop de viser la vie contemplative. Tant qu'on a la santé. Catherine Fournier, peu importe la façon dont l'engagement se manifestera au cours de ma vie, je sais que cette volonté de faire la différence ne me quittera jamais. Le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Qui sont-elles? Lisa Froula a d'abord été journaliste au sport. La Linda Hébert de L'Anse et Compte, c'est elle. Elle s'est ensuite lancée en politique et a été ministre libérale au Québec de 1990 à 1994, puis à Ottawa de 2003 à 2006. On lui doit notamment la première politique culturelle du Québec. Elle est aujourd'hui directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Véronique Yvon est devenue députée péquiste dans Joliette en 2008. Elle a été réélue en 2012, en 2014 et en 2018. Elle a notamment été ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse de 2012 à 2014, et elle est la marraine de la loi concernant les soins de fin de vie. Elle s'est retirée de la vie politique en 2022 et elle agit depuis comme analyste dans les médias, en plus d'être professeure invitée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Catherine Fournier est devenue à 24 ans la plus jeune femme élue députée à l'Assemblée nationale. Elle a représenté la circonscription de Marie-Victorin de 2016 à 2021. Mairesse de Longueuil depuis 2021, elle a annoncé qu'elle sollicitera un autre mandat. Elle a aussi participé à un documentaire sur le processus judiciaire ardu pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Vous écoutez « Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand », extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans la presse. Réconcilier les gens avec le vieillissement. Texte de Nathalie Collard. Jeannette Bertrand a consacré sa vie à briser les tabous jusqu'au dernier, la vieillesse, dont elle parle aujourd'hui sans détour. Cette grande communicatrice a choisi de mettre son énergie au service de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. Curieuse d'en savoir plus, notre chroniqueuse a poussé les portes de cette institution méconnue. Quand j'ai rencontré le gériatre de Jeannette Bertrand, le docteur David Lucier, il m'a raconté une anecdote qui en dit long sur l'influence de cette grande dame. Quand Mme Bertrand a commencé à parler de son gériatre dans les médias, le téléphone ici s'est mis à sonner. Tout le monde voulait un gériatre. Les gens arrivaient avec son livre dans les mains. Elle a eu un impact énorme. C'est le pouvoir de Jeannette, de mettre la lumière sur une réalité et de nous y intéresser. Dans son dernier livre, elle parle avec transparence des conséquences du grand âge. Elle donne presque le goût d'être incontinent, ajoute le gériatre en riant. Gérer ses bobos. La gériatrie est une médecine spécialisée qui s'intéresse aux problématiques complexes liées au grand âge. Problèmes cognitifs, dysphagie, chute, douleurs chroniques, incontinence. Si l'Institut de gériatrie de Montréal est le seul du genre au Québec, on trouve des gériatres partout dans la province. Mais la vérité, c'est que si vous avez 75, 80 ou 90 ans et que vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin de voir un gériatre. Un médecin de famille saura répondre à toutes vos questions et vos inquiétudes. Le docteur Lucier, pour sa part, se spécialise dans la douleur chronique. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré Jeannette Bertrand. Ce n'est plus un secret professionnel car elle en parle publiquement. Avec son équipe, le gériatre a bâti un programme pour autonomiser les gens face à leurs douleurs. Au niveau des médicaments, on est très limité. On peut proposer des infiltrations ou une opération, précise-t-il. Le mieux qu'on puisse faire, quand on est aux prises avec la douleur chronique, c'est apprendre à la gérer soi-même. Dans un monde idéal, tous les groupes de médecine familiale seraient en mesure d'enseigner l'autogestion de la douleur à leurs patients. L'idée, c'est de contaminer les autres types de médecine afin que tout le monde soit en mesure de répondre aux besoins des patients âgés, observe le docteur Lucier. En plus de sa clinique externe, l'Institut de gériatrie de Montréal s'implique dans sa communauté par l'entremise de projets de recherche en gériatrie sociale. Un exemple. Ce projet pilote de communauté bienveillante mis en place dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il teste aussi des environnements qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées. Au fond, l'objectif de la gériatrie, c'est de permettre aux gens de prendre le pouvoir sur leur vieillissement, me résume le docteur Lucier. Pas étonnant que cela ait allumé l'intérêt de Jeannette Bertrand, une femme pour qui l'autonomie a toujours été une valeur phare. Sommes-nous prêts? J'ai demandé au docteur Lucier s'il estimait qu'on se prépare suffisamment pour faire face au vieillissement de la population québécoise, ce que certains appellent la vague grise. Personnellement, ça m'a toujours frappé qu'on nous parle d'économiser dans un REER dès l'âge de 25 ans, mais que jamais on ne nous conseille de nous préparer psychologiquement et physiquement à vieillir. C'est comme si on refusait de voir l'inéluctable. Je dirais que, depuis un an ou deux, on le réalise davantage, répond le docteur Lucier. Avant, effectivement, c'est comme si on ne le voyait pas. Pour reprendre votre exemple d'RER, il n'est jamais trop tard pour mettre de l'argent de côté, mais plus on le fait tôt, mieux on s'assure de vieillir en santé. Cela dit, le docteur Lucier veut aussi nous mettre en garde contre le syndrome des super-vieux. Attention à ne pas vouloir performer sa vieillesse, conseille-t-il. En d'autres mots, on n'aura pas tous la chance de vieillir comme Jeannette, et c'est bien correct. Madame Bertrand est ce qu'on appelle une super vieille. L'idée n'est pas d'aspirer à ça. La grande majorité n'y arrivera pas. Et puis, ajoute le gériatre, Madame Bertrand n'est pas épargnée par tous les malaises liés à la vieillesse. Elle a ses bobos, elle aussi. Elle ne se lève pas le matin comme elle est à la télé, souligne-t-il. Elle le dit davantage maintenant, et c'est important pour éviter que les gens se culpabilisent de ne pas être comme elle. Et elle se montre plus en fauteuil roulant. En faisant tout cela, elle nous réconcilie avec le vieillissement. Comme le dit souvent Jeannette Bertrand, elle n'est pas le seul modèle de vieille au Québec. Quand je l'ai rencontrée chez elle en décembre dernier, elle me parlait de tous les témoignages qu'elle recevait d'un peu partout au Québec, de toutes ces personnes âgées, allumées et engagées dans leur communauté. C'est d'ailleurs son projet actuel avec la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, mettre en lumière des modèles pour les aînés. Un projet rassembleur et lumineux, à l'image de Jeannette. Vous écoutez « Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand », extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans La Presse. Lutte contre le sida et l'homophobie. Une contribution immense. Texte de Luc Boulanger. Au milieu des années 1980, dans sa série avec un grand A, Jeannette Bertrand commence à parler du VIH-sida. Et Jean Thomas a connu l'animatrice sur le plateau de son émission « Parler pour parler » où il était invité pour discuter du sida avec des malades. Il est devenu son ami et son médecin de famille. Rencontré dans ses bureaux de la clinique médicale L'Actuelle dans le quartier latin, on lui demande comment il qualifie la contribution de Mme Bertrand à la lutte contre le sida. « Immense », lance le médecin sans hésiter une seconde. Mais le rôle de Jeannette remonte à bien avant la crise du sida, précise-t-il. Lorsque je pense à Jeannette, je pense surtout à son travail pour démystifier et faire accepter l'homosexualité, à une époque où c'était encore tabou au Québec. Au début des années 1990, je donnais des conférences dans les écoles sur le sida et les gens étaient mal à l'aise d'entendre parler d'homosexualité. Autant les professeurs que les élèves, se souvient le docteur Thomas. Or, pour prévenir le virus du sida, il fallait inévitablement aborder la question de l'homosexualité, car la maladie touchait principalement les personnes homosexuelles en Amérique du Nord. En s'attaquant aux préjugés, Jeannette Bertrand a dû subir le jugement des autres. Si elle est adulée ces jours-ci, l'animatrice a été critiquée dans les années 1980 et 1990. On disait qu'elle faisait de la télévision à message, voire à très gros message. Elle voyait le petit écran comme un outil d'éducation sociale, avec des émissions thématiques, des débats, des forums. Elle était woke et influenceuse avant que ces mots existent, illustre le médecin. Il y a des femmes qui n'aimaient pas Jeannette, parce qu'elle était en couple avec un homme plus jeune qu'elle, parce qu'elle parlait beaucoup de sexualité et d'autres sujets tabous. Je n'ai pas cherché bien loin. Ma propre mère n'aimait pas Jeannette, car elle trouvait qu'elle parlait trop de sexe à la télévision, explique le docteur Thomas. Lorsque je suis allé à parler pour parler, ma mère a été fâchée contre moi pendant des mois. Jeannette veut tout savoir. Quelle est la principale qualité de Jeannette Bertrand à ses yeux? Elle est curieuse, et curieuse de tout, dit le docteur Régent Thomas. Elle s'intéresse aux gens pour de vrai. Il n'y a rien de fake chez elle. C'est une femme libre qui ne juge pas les autres. Je me dis parfois qu'elle doit avoir des préjugés sur quelque chose, mais non. Tenue par le secret professionnel, le bon docteur ne dévoilera rien sur sa célèbre patiente, sauf son exemplarité. Jeannette est d'une grande simplicité. Lorsqu'elle vient me voir à la clinique, elle attend avec tout le monde dans la salle d'attente. Elle ne joue pas à la vedette pour passer plus vite. Ce qui est impressionnant, c'est son énergie et sa mémoire exceptionnelle, poursuit-il. Jeannette a une meilleure mémoire que bien des gens qui ont 20 ou 30 ans de moins qu'elle. Elle m'a aussi donné un précieux conseil. Ne jamais prendre ma retraite. Parce que le jour où tu prends ta retraite, c'est le début de la descente. Vous écoutez tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand, extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans La Presse. La cuisine décomplexée de Jeannette. Un texte d'Isabelle Morin. Gourmande assumée et ménagère émancipée, Jeannette Bertrand a livré les secrets de sa cuisine simplifiée dans un livre de recettes qui se voulait libérateur. C'était en 1968. Plus tard, avec Parler pour parler de 1984 à 1994, elle a donné rendez-vous à son public chaque semaine dans sa salle à manger. En cuisine comme ailleurs, Jeannette a été curieuse et audacieuse. Libre. Un merci en trois plats, cinq actes et trois invités. Nous sommes au Rose Ross, sympathique restaurant de la promenade Masson, où les plats, inspirés de la cuisine québécoise, trouvent un juste équilibre entre finesse et réconfort. C'est dans ce contexte que la chef et copropriétaire de l'endroit, Myriam Pelletier, arpège, toquée, nous reçoit en compagnie de l'animateur Christian Bégin et de Geneviève Vézina Montplaisir, cofondatrice de Caribou, seul magazine consacré à la cuisine du Québec. Le prétexte est savoureux. Aborder le patrimoine culinaire de Jeannette Bertrand autour de trois recettes tirées de son répertoire. J'ai pris quelques libertés, mais je pense que Jeannette l'aurait fait aussi, lance la chef, qui a récemment participé à un repas rendant hommage à la carrière de Jeannette Bertrand à Montréal en lumière. Notre sujet a en effet su faire de la cuisine un lieu d'interprétation. Fin des années 1960. Jeannette Bertrand sort un livre de recettes vendu à l'époque à 220 000 exemplaires. Ce succès de la littérature culinaire québécoise sera bonifié de 165 recettes en 2005, puis réédité 20 ans plus tard à l'occasion de son 100e anniversaire. L'ouvrage a évolué au fil du temps, mais reste fidèle à son édition originale. Modeste, sans images à faire saliver, généreux en recettes faciles et rapides à concocter. Dans les années 1970, l'autrice mène une triple carrière, écrit-elle en préface de son livre. Elle est mère de 3 enfants, épouse et co-animatrice d'une émission quotidienne à la radio. Jeannette a cherché une façon de se libérer de sa cuisine, et c'est ce qu'elle a voulu partager avec ce livre, dit Christian Bégin. Elle avait une mission qui était de faire plus d'espace dans le quotidien des femmes pour d'autres occupations. Humaniser la cuisine. L'astuce conciliante et apaisante de Jeannette est de faciliter la préparation des plats. Pour y arriver, elle jeannettise ses recettes sans complexe. Elle joue avec les ingrédients et privilégie des produits courants, souvent moins coûteux, observe Myriam Pelletier. Son ami Fernand Seguin disait qu'elle était une botcheuse chanceuse. Elle prenait des raccourcis, mais ça sortait bien chaque fois. C'était l'époque des repas surgelés Swanson, mais aussi celle où l'on savait encore cuisiner de façon instinctive et sans mode d'emploi ultra détaillé, relève Christian Bégin, complice de Jeannette depuis ce jour où elle lui a donné son premier grand rôle à la télévision dans « Avec un grand A ». Ce que j'aime de Jeannette, c'est qu'elle a présenté des recettes parfois très simples, mais qui garde l'acte de cuisiner. Et si elle est plus vite impliquée de se tourner vers des produits industriels, alors va pour la soupe en conserve ou en sachet qu'elle glamorisait allègrement. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui apprêtent encore son petite palette saupoudrée de soupe à l'oignon en poudre, en ne sachant probablement pas qui on est à l'origine. Geneviève Vézina Monplaisir, co-éditrice du magazine Caribou, nous dit « Elle a ce côté complètement assumé, qui est en totale harmonie avec sa personne. Elle fait sa recette comme bon lui semble et sans avoir la prétention d'être chef. Souvent, les femmes s'excusent de ne pas en faire assez. Jeannette dit « Voilà ce que je vous ai préparé. C'est généreux et vous allez trouver ça bon. » Manger pour parler. D'en parler pour parler, Jeannette cuisine ses invités, dans un rôle d'hôtesse, osant aborder des sujets croustillants avec des questions bien relevées, tout en faisant circuler la saucière. Le concept, établi dans un contexte familier et chaleureux, ne ressemblait à aucun autre. Elle a eu un bon instinct de le faire autour de la table, juge Christian Bégin. Au Québec, notre identité est intimement liée à la cuisine. C'est là qu'on se rassemble, qu'on discute et qu'on règle nos comptes. La table est un lieu de rencontre, nous rappelle Jeannette. Il y a toujours une dimension affective à ses recettes, et ça, c'est l'histoire de sa vie, selon Myriam Pelletier, chef et copropriétaire du Rose Ross. La cuisinière y va d'anecdotes, transmet son répertoire culinaire tout en donnant le mérite à ceux qui l'ont inspiré, des chefs autant que l'ami de l'aquaforme ou l'amoureux. Certains plats sont par ailleurs de délicieuses amorces pour une conversation, comme son poulet aux 40 gousses d'ail ou son jambon au foin à la manière de Paul Bocuse. Oser réclamer l'ovation. Elle l'a toujours dit, et ça peut paraître bien basique, mais nourrir l'autre est une façon de le garder en vie, parce qu'on tient à lui. « Sans manger, on meurt », déclare Christian Bégin. Cuisiner est un acte d'amour, souligne d'ailleurs Jeannette, tout en réclamant l'appareil. Mes enfants et mes petits-enfants préviennent toujours leurs amis quand ils sont invités à manger chez moi. Exclamez-vous! Rien n'est plus frustrant pour une cuisinière que le silence autour des plats qu'elle a mijotés avec amour. Elle exprime ses attentes à table de façon féministe et complètement assumée, pointe Geneviève Vézina mon plaisir. Je trouve admirable, dit celle-ci, qu'elle dise très clairement « Je veux que tu me complimentes ». Elle l'a souvent répété aux femmes. On ne devinera pas vos attentes, ce qui s'appliquait à la cuisine comme à la sexualité. Une femme de toutes les époques. Dans sa dernière édition, Jeannette dédie son livre non pas aux ménagères, mais aux couples en manque de temps. La publication s'est enrichie et s'est mise à la page au fil des décennies, tout en restant fidèle à son contenu d'origine. On apprend en souriant dans le livre, témoin d'un passé, que l'homme aussi peut réussir un gâteau et que s'il veut du glaçage, il n'a qu'à y déposer quelques after hate et le mettre au four. On trouvera bien d'autres perles rétro, comme un saumon cuit dans 6 à 9 pages du journal La Presse. La cuisine de Jeannette a un goût de nostalgie qui est réconfortant, constate Christian Bégin. Son livre fait œuvre de mémoire, comme ses recettes familiales passées d'une génération à l'autre, qui nous rappellent à quel point les choses ont changé ou pas. Intemporelle Jeannette. C'était « Tout ce qu'on doit à Jeannette Bertrand », extrait d'un dossier collectif paru le 22 mars 2025 dans La Presse.
Partir ou rester? Le dilemme déchirant des chercheurs américains. Un texte de Charlotte Cosit de l'agence France Presse paru le 8 avril 2025 dans Le Devoir. C'est sur toutes les lèvres, raconte un étudiant-chercheur. Dans les couloirs des universités et des laboratoires de recherche américains, la question d'un départ à l'étranger s'impose dans les esprits, sur fond d'inquiétudes grandissantes quant au futur de la recherche aux États-Unis. L'annonce du départ de Jason Stanley, professeur de philosophie et spécialiste du fascisme de la prestigieuse université américaine de Yale pour rejoindre le Canada, a récemment mis en lumière le dilemme auquel font face un nombre croissant d'universitaires et de scientifiques américains, rester ou partir. J'ai pris ma décision quand Columbia a plié, a expliqué M. Stanley, dans une interview aux médias CBS en référence à l'université new-yorkaise qui a récemment cédé aux exigences de Donald Trump pour conserver ses subventions. Ce n'est pas le moment de reculer et d'avoir peur, a lancé le professeur, jugeant que les États-Unis étaient devenus un pays autoritaire. Entre financement annulé ou menacé de l'être, crainte de censure et d'atteinte à leur liberté, de plus en plus de chercheurs ou d'aspirants chercheurs réfléchissent à quitter les États-Unis, pourtant considérés jusqu'ici comme le paradis de la recherche dans nombre de domaines. Selon un sondage publié fin mars par la revue spécialisée Nature et réalisé auprès de plus de 1600 personnes, plus de 75% des scientifiques songent aujourd'hui à un tel départ en raison des politiques mises en place par Donald Trump. Une tendance particulièrement prononcée chez les chercheurs en début de carrière, relève cette enquête, notant la grande proportion d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui envisagent un départ. Surréaliste. Les gens ont tellement peur, décrit à l'AFP Daniela Fodera, une doctorante à l'Université Columbia, dont la bourse de recherche a récemment été annulée. Plusieurs institutions académiques ont annoncé ces dernières semaines un gel dans leurs embauches et une réduction du nombre d'étudiants qu'elles acceptent, ce qui perturbe considérablement la filière universitaire, observe cette jeune chercheuse en biomécanique. C'est une période un peu surréaliste pour les scientifiques car nous ne savons tout simplement pas ce qui va se passer, abonde Karen Svanes, à la tête d'un programme de recherche à l'Université Johns Hopkins. C'est un moment difficile pour la jeune génération parce que beaucoup de laboratoires ne savent pas s'ils vont pouvoir les soutenir. Par crainte donc de ne pas trouver de poste, mais aussi par volonté d'échapper au climat politique actuel, Daniela Fodera, qui étudie les fibromes utérins, des tumeurs bénignes affectant de nombreuses femmes, explique avoir commencé à chercher activement des programmes en Europe et à l'étranger pour poursuivre sa formation postdoctorale. C'est sur toutes les lèvres, que ce soit une plaisanterie ou pas, appuie J.P. Flores, étudiant-chercheur en génétique en Caroline du Nord, disant y songer lui aussi. Europe et Canada. Une fuite des cerveaux dont certains pays comptent bien bénéficier. Plusieurs universités européennes et canadiennes ont ainsi annoncé des initiatives pour attirer les talents américains. Un appel du pied qui ne passe pas inaperçu. Je connais déjà des chercheurs qui ont une double nationalité ou qui ont de la famille au Canada, en France, en Allemagne, et qui commencent à dire « Je pense que je vais aller vivre en Allemagne pour les 5 prochaines années et faire de la recherche là-bas », rapporte Gwen Nichols, membre d'une association dédiée à la recherche contre les cancers du sang. Pour autant, l'option du départ est loin d'être accessible à tous, insiste une jeune chercheuse en sciences du climat souhaitant rester anonyme, les étudiants et doctorants étant les premiers affectés par les coupes budgétaires, mais aussi les moins expérimentés, donc ceux qui ont le moins de chances d'avoir le profil que les institutions de l'Union européenne espèrent attirer. Pour cette titulaire d'un doctorat qui a entrepris des démarches pour émigrer en Europe, les États-Unis courent le risque d'une perte générationnelle pour la science dans toutes les disciplines. Une crainte que partage Gwen Nichols, pour qui c'est l'avenir même de la domination scientifique américaine qui est en jeu. Si rien ne change, nous verrons le problème dans 10 ans, lorsque nous n'aurons pas les innovations dont nous avons besoin, alerte-t-elle. C'était Partir ou rester, le dilemme déchirant des chercheurs américains, un texte de Charlotte Cosite de l'agence France-Presse paru le 8 avril 2025 dans Le Devoir.